Enfants de Grozny, c'était les enfants de Grozny qui étaient venus, souvenez-vous, il y a quelque temps à Paris. Et aujourd'hui, on va les retrouver, les enfants de Grozny, mais on va les retrouver là-bas, non pas seulement à Grozny, mais en Tchétchénie. Cette guerre, qui n'est pas une guerre complètement oubliée, mais une guerre sans espoir, qui une guerre qui est présentée comme une fatalité, un conflit de basse intensité. Basse intensité peut-être, mais avec des enfants. Avec des enfants, non pas ceux qui étaient venus, ou en tout cas, s'ils étaient venus, ben, ils sont là-bas, toujours, en Tchétchénie, et on va les retrouver. On les avait rencontrés il y a quelques mois, et aujourd'hui, c'est avec eux qu'on va passer cette heure. Pourquoi ? Eh bien, parce que, d'abord, c'est l'anniversaire de la déportation des Tchétchènes, on l'a évoqué dans la première émission, et puis aussi parce que nous allons retrouver ces amis tchétchènes que nous avions rencontrés à Grozny. Mais aujourd'hui, les enfants de Tchétchénie.
Даже ни одни вот недели не прошло у нас без этой стук.
On ne laisse pas le temps de revenir à nous, de reprendre le temps.
Мне не было война создать вот. Там у нас вот сзади вот этот стон. Нет покоя.
Il y a pas de temps calme ici. Il y a pas de repos. C'est sans répit.
Страны. Почему они не приедут?
И показывают,
почему они не смотрят на всю эту картину?
С табло.
Почему другие страны молчат? Они же знают.
Pays disent rien, se taisent alors qu'ils sont au courant.
Они же знают, что тут творят, но они не хотят об этом говорить.
Ils veulent pas en parler.
On s'est réunis avec les voisins pour enterrer les jeunes. Ils étaient tellement jeunes, ils étaient tellement beaux, des jeunes, des enfants. On s'est réunis pour pouvoir enterrer tous ces gens, parce qu'il y avait tellement de morts à enterrer.
Il y avait
beaucoup, c'était pas possible de les compter.
C'est terrible, ces enfants qui écoutent ces histoires, qui sont là, dans cette maison, près de l'électricité est revenue, mais s'il y a une panne, on nous a apporté une bougie, on est là, tous les cinq, à écouter ces histoires, hein.
Il y a eu un petit garçon qui a été pris en otage, qui a été tué.
C'était un copain à toi?
Ouais.
Изнор, говорит.
Изнор? Il avait quel âge?
Six ans.
Six ans?
Мовик Бош, да. Мовик Бош, я вел, дас, а что же, а, хотя уж, да, иган,
Изнор pleurait, son père leur a donné de l'argent, mais ils l'ont quand même tué.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, Tchétchénie.
Flight number 2. Arriving from...
Aujourd'hui, c'est jeudi. On a pu sortir de Goudermès. Hier, on a été bloqué toute la journée. On a appris qu'il y a eu des combats dans la journée entre Goudermès et Grozny. Aujourd'hui, on sort assez facilement. On voit des camions citernes, maquillés, déguisés, encadrés par des véhicules militaires. Et on nous dit que c'est du pétrole ou de l'essence qui est détourné par la hiérarchie militaire elle-même. C'est-à-dire qu'ici, on le voit d'ailleurs dans le lointain. Ah, il faut la fermer, là. D'accord. Là, il y a un poste de garde. D'accord, ok. Je range. Ouais, c'est des unités qui font du déminage avec des chiens, qui déminent le long de la route. Oui, donc, pour la hiérarchie militaire, c'est un Eldorado. La Tchétchénie constitue un Eldorado. Ils s'en mettent plein les poches, mais c'est le cas aussi du moindre bidas. Peut-être les appeler. Là, on arrive encore à un poste. Peut-être il y a peut-être que les appelés qui se font pas de flic, mais... D'accord, je ferme. Il y a un poste. Celui où il y a écrit Saint-Pétersbourg.
Честно сказать, пускай дети все видят, и мне кажется, лучше дома помирать, чем где-то ходить, собираться.
Tout prendre, faire que mes enfants voient tout ça et qu'on meure ici s'il faut mourir.
On ne fuit pas son pays.
Нельзя убежать от себя.
On se fuit pas soi-même.
От себя нельзя убежать.
On peut pas se fuir soi-même.
Où sont les camarades Koukesh? Vous vous souvenez? Koukesh. Mais si. Allons. À la frontière du Kosovo, entre l'Albanie et le Kosovo, en mai 1999, toutes les télés du monde se marchaient sur les pieds, et maquillées, et poudrées pour le 20h, les présentateurs en gilets multipoches, d'une voix pénétrée, racontaient le calvaire des Albanais du Kosovo, le génocide, les charniers, tandis que les bombardiers bombardaient, nos bombardiers bombardaient les avions de l'OTAN. Et le cœur serré, nous tous, le monde entier, les gens du monde entier, espéraient, croyant que cette fois, oui, enfin, la guerre humanitaire était là, la bonne guerre, la guerre de gauche, pour en finir avec ce qui doit, un jour ou l'autre, finir. Alors, pourquoi aucune caméra à Grozny ces temps-ci? Pas autant, mais deux ou trois pour nous faire savoir, pour nous informer. Mondialisation, communication, informatisation, tout voir, tout savoir, voilà notre monde, non? Non, pas du tout. Angle mort, petit confetti sacrifié dans un coin du décor écrasé du talon, sous silence, un silence même pas gêné, sans alibi, une impuissance sans pudeur, une indifférence sans problème. Est-ce que les gosses de Grozny valent moins que ceux de Pristina? immolé. Un pope est actuellement immolé sur l'autel du grand jeu géopolitique. Pétrole, unité russe, zone d'influence. On s'en fout. On en sait largement assez. Et c'est cette impuissance qui nous tombe dessus. Voilà tout ce que nous avons produit. Voilà où nous en sommes. C'est aussi simple et aussi clair et aussi bête que ça. Actuellement, des hommes, des femmes et des enfants continuent de mourir en Tchétchénie, des bombes de tomber, des hommes de périr, d'être torturés. 350 000 hommes qui sont revenus d'Algérie, on le sait maintenant, sont revenus blessés dans leur tête, 350 000 sur les 2 millions qui sont allés là-bas entre 1954 et 1962. 350 000, on le sait aujourd'hui. Combien d'enfants tchétchènes, combien d'hommes, de femmes, dans 40 ans, pourront dire ce que disent ceux qui étaient là-bas. On continue aujourd'hui. Je vous rappelle que, faut-il le répéter, pratiquement aucun journaliste, aucun reporter n'entre dans en Tchétchénie, à Grozny, ni nulle part. Et nous avons pu, j'ai pu, avec une traductrice, passer une semaine dans cet enfer. Et je vous présente aujourd'hui la suite de ces reportages. Là, on est à Arkoun, on est entré dans la ville. Il y a des barrages très très nombreux. Il y a une opération de nettoyage qui se prépare dans un quartier. Il y avait des chars déployés, des engins, des BTR, des bidasses partout. Un nettoyage, ça veut dire que chaque maison, chaque cave est passée au peigne fin, avec toutes les exactions habituelles. Donc il y a une tension particulière dans la ville. Et là, on est dans un local dans lequel se trouvent des enfants surtout. Mais on va essayer de parler avec les femmes qui s'occupent d'eux. C'est un local où on prépare la fête du Nouvel An. Et toutes les nuits ici, il y a des tirs. Les gens sont à bout de nerfs, évidemment. Mais les mômes ont l'air de résister apparemment un peu mieux. Ce que je vois par la fenêtre, c'est un spectacle de désolation. Et pourtant, bon, ça tient encore un peu debout. Il y a quelques bouts d'immeubles qui tiennent, avec quelques appartements même qui sont occupés. C'est toujours le même paysage, des arbres arrachés, des flaques d'eau à cause des canalisations qui sont pétées. Et quand même un peu de vie dans tout ça. Qui sont les gens qui sont ici dans cette maison ?
Люди беженцы, бедные, все разрушены,
les plus pauvres.
Аргунские, Нажертовские, Веденские, ну разные.
La région d'Argun, de Vedeno, de Nojayur, de différents endroits de Tchétchénie, c'est les plus pauvres, des réfugiés.
С 95-го года.
Depuis 1995. De la guerre d'avant.
De la guerre d'avant et de cette guerre-là aussi?
Et de cette guerre aussi.
95, depuis 1995, ces réfugiés de l'intérieur de la Tchétchénie, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens de partir en Ingouchie dont nous parlions tout à l'heure, ils nous ont dit, dans les reportages précédents, ils nous ont dit que ça coûtait cher, il fallait avoir les moyens de partir. Ils nous ont dit pourquoi ils restaient, parce que ils étaient trop nombreux, il y avait une vieille mère auprès de laquelle il fallait rester, et puis aussi parce que partir, c'est trahir. On va passer quelques instants dans ce bâtiment en partie en ruine, où ces enfants et ceux qui s'en occupent, qui les éducateurs, instituteurs, parfois vivent. Vous faire comprendre ce que c'est que leur vie, leur survie. Comment, j'ai compris un processus, je crois, qui est celui de neutraliser la terreur qu'on a en soi-même. Quand vous arrivez sur ce genre de terrain, d'endroit, vous êtes terrorisé, bien évidemment. Mais vous dites, mais pourquoi j'ai si peur? Et vous détestez cette peur qu'on a mise en vous, que le mal, parce que ça s'appelle comme ça, mais en vous. Et vous commencez à faire une sorte de résistance contre cette terreur intérieure. Vous commencez à négocier avec elle. Vous commencez à la refouler, à la nier et à avoir une attitude qui semble tout à fait normale. Et c'est ce que font ces gens qui sont autour de nous. Ils semblent tout à fait normaux. Les enfants semblent, vous allez voir, tout à fait. Non, on croirait rentrer dans une école de chez nous. Et en fait, c'est des gens qui essayent inutilement bien sûr, de neutraliser la terreur qui les habite comme une résistance inconsciente. 350 000 hommes sur les 2 millions qui sont allés en Algérie souffrent toujours, chez nous aujourd'hui, 40 ans après, de troubles psychiques. Comment tu t'appelles, toi ?
Hossein.
D'où tu viens ?
De Grozny.
Tu viens de Grozny ? Est-ce que tu as vu la guerre, toi ?
J'ai vu les avions qui passent dans le ciel, les snipers. J'ai vu des morts avec la tête arrachée, les jambes arrachées.
Tu as vu ça avec tes yeux ?
Oui, j'ai vu.
Quand est-ce que tu as vu ça ?
L'année dernière, en 99.
Tu étais avec tes parents ?
Oui. J'étais sur le balcon, j'ai vu des soldats sur les tanks qui tiraient. C'était terrible. Il a été en état de choc, en situation de choc, dit la dame qui s'occupe des réfugiés. On a tiré du tank, il y a eu 3 morts et des blessés. Il y a eu un petit garçon qui a été pris en otage, qui a été tué.
C'était un copain à toi ?
Iznor,
il avait quel âge ?
6 ans.
Iznor pleurait, son père leur a donné de l'argent, mais ils l'ont quand même tué.
Je suppose que tous les enfants racontent des histoires comme celle-là.
Oui, c'est la même situation pour tous. Ici, c'est vraiment horrible. Ils sont tous très irascibles.
Ah. Vous avez des tirs ici, vous avez des bombardements.
Конечно, стреляют. Мы всегда.
Bien sûr, il y a des tirs.
Да, на подвале, на коридорах.
On va toujours dans le couloir, dans la cave.
У меня почки болят.
Pourquoi moi j'ai mal au rein, j'ai très mal au rein.
Все вот такие больные.
On est tous malades.
C'est toutes les nuits, vous avez des tirs souvent.
Да, стреляют. Вчера тоже стреляли.
Hier, il y a eu des tirs.
Да, ночью.
Oui, pendant la nuit.
Танковый. Вот.
Les tirs de tanks, de mitraillettes, des snipers.
Снаряды тоже бывают.
Des obus aussi parfois.
У меня сильно сердце болит. У всех даже. Мы
все. J'ai le cœur malade.
Да, мы все под валерианком живем.
On vit tous dans la cave. Ils sont tous en état de choc actuellement. Ils ont très peur. Tous les enfants sont très effrayés. Nous aussi, on est effrayés.
Et ils font des dessins, les enfants ?
Oui, dans la pièce.
Ah, on va aller voir. En tant que psychologue, ça m'intéresse. Ah, voilà. Ça déborde de rire. Et là, c'est des dessins extraordinaires qui ont été faits par les enfants, qui représentent vraiment tout ce qu'on voit autour de nous. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire des immeubles détruits, des parties qui sont complètement explosées, arrachées. Là, on voit ça, c'est quoi ? C'est des mines ?
Oui.
Là, ça, c'est un sniper.
Вот он
Чечен, да.
Вот стреляет русских танк батареи. И тир сюр танк сюр батареи. Есть стрелки. Я дети
там.
Послушай. Écoutez. Ah, там. Tous les jours. Alors, on est là avec ses enfants qui ne se rendent pas compte évidemment de ce qui se passe. Les enfants gueulent plus fort que les tirs. Je viens pas la part. Ah, si, si, on entend là, le bombardement. Revenons voir ces dessins. Effectivement, on entend des roulements des tirs. Là, on voit à nouveau ces maisons complètement défoncées, ces immeubles complètement défoncés. Là, on voit des colonnes. Les gosses ont dessiné des colonnes de chars et de BTR. C'est exactement ça. C'est d'une précision extraordinaire. Des avions qui passent dans le ciel. Là, des avions camouflés, des chars de combat. C'est extraordinaire comment les mômes ont tout dessiné, tout représenté, tout ce qui est dans l'esprit, dans la tête de chacun. Tous les...
Il y a des tirs.
Et puis parmi tout ça quand même, il y a un gosse qui a dessiné un cygne jaune sur un étang bleu avec une prairie verte, un soleil et un cœur. Et c'est un cygne avec un petite couronne argentée et un petit collier doré.
Et là, vous voyez?
Ça, c'est quoi? Les gosses connaissent le langage des tirs. Loin, près, mitraillette au poste de contrôle, tir d'artillerie, tir d'aviation, tir au loin. Et ils connaissent le langage de ces tirs. On a compris la stratégie fédérale de l'armée russe, c'est de terroriser les civils pour qu'ils se désolidarisent d'avec les combattants, pour que le peuple rejette ceux qui se battent au nom même du peuple. C'est la stratégie on appelle ça vider le bocal pour prendre le poisson. Où en est le moral? Parce que c'est pas seulement un assassinat d'un peuple sur le plan physique, mais vous voyez bien, c'est psychologique, c'est psychique, c'est dans son âme même. Insulter une femme tchétchène, comme le font les bidas russes au poste de contrôle, par exemple, c'est la détruire complètement. C'est un peuple ancien avec ses croyances, avec sa culture, etc. Et l'état-major connaît ça. Et c'est comment on casse un peuple de l'intérieur. C'est des vieilles combines, c'est des vieilles ficelles employées depuis très longtemps. Il y a ces deux guerres qui se succèdent aussi. En 96, les Russes ont pensé avoir gagné. En 97, ils se sont élus un président quand même de ce pays. Et en 99, il a fallu reprendre. On donne des milliers d'explications à ce qui se passe dans cette petite partie du monde. Cette énorme Russie et ce tout petit confetti, cette épine dans le pied de l'ours russe. On trouve des explications à travers le pétrole, à travers la géopolitique, à travers l'histoire, etc. Reste que il y a bel et bien, au jour le jour, un peuple qui n'en peut plus. Et chaque bombe que vous entendez fabrique des rebelles. Les enfants qui sont là, qui ont 8 ans, 10 ans, entendent tout ça, dessinent tout ça. Et ne croyez pas qu'ils se préparent à la paix. C'est des enfants tchétchènes. Les tchétchènes sont depuis longtemps des hommes de pugnace, des hommes de combat. Et la vendetta prévaut toujours dans cette culture. Et un enfant doit, son clan l'exige, un jour ou l'autre, venger. Ceux de son clan qui ont été offensés, ne serait-ce qu'offensés, évidemment à plus forte raison tués. Donc jamais la Russie n'arrivera à neutraliser ce peuple-là et à le dominer. Cette guerre dure depuis 2 siècles et actuellement la Russie, une nouvelle fois, l'armée russe, une nouvelle fois s'enlise, s'enfonce et inéluctablement perdra, même si ça doit passer comme certains le craignent, comme Elena Bonner le craint, comme Kovaliev, Sergei Kovaliev le craint, que ça passe par le génocide du peuple tchétchène. On a un peu la trouille parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir sortir de la zone maintenant s'il y a des tirs.
S'il y a des combats, il se peut qu'on soit con. Il se peut qu'on soit obligé de rester ici. Alors on va peut-être pas. On va peut-être essayer de partir. Il y a les montagnes, il y a les hélicoptères. Donc les gosses suivent ces combats. Elles sont au courant de tout, sentent tout. On sent qu'ils ont. Là, il y a tout un tas de récits. Il y a des parachutes là. Mais c'est très 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 précieux.
Вот они сами сделают вот так, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, всегда.
Ils font tout le temps comme ça. Ils font tout le temps comme ça.
Ils jouent à la guerre.
Самолет сделает, все делает вот так. Вот так делают они, да? Сами вот так делают.
Comment ça fait la... Quel bruit ça fait la guerre, dis-moi. Et toi, tu fais aussi? Et les petites filles, elles mettent leurs doigts dans leurs oreilles, hein, pour en écoutant ça. Voilà. Barcala, Barcala. On repasse par cet escalier avec des trous. Ah, c'est extraordinaire, je suis en train d'essayer de décrire cet escalier défoncé avec des impacts de tir partout. Là, il y a un trou, je suis face à un trou qui donne dans la cour. Mais là, en contrebas, il y a une femme avec une jeune femme avec une balayette qui est en train de nettoyer cet escalier quand même. Je vais planquer mon matos avant de sortir, hein. Je vais plancher le matos avant de sortir.
Mourad dit que ça tirait énormément et dans un quart d'heure, la ville risque d'être bouclée. C'est pour ça qu'il voulait qu'on parte vite.
Voilà, on se dépêche de sortir de la ville d'Argun parce qu'on pense que la ville pourrait être bouclée. Il y a eu des tirs et probablement des combats dans la région. Des combats, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas des tirs, ce qui précède le bouclage des zones. Donc là, on essaie de se barrer le plus vite possible. On apprend que des rumeurs qui circulent, mais on apprend qu'un collaborateur de la Croix-Rouge ici a été battu par les militaires, un Tchétchène employé par la Croix-Rouge qui a été battu. C'est vraiment l'arbitraire le plus total, la terreur la plus totale, la pression. Chaque personne ici vit sous une tonne de pression, de peur, de permanent.
si on peut sortir de la ville. Là, c'est étonnant, sur la gauche, il y a deux gosses qui arrivent en jouant. Et là, la petite voiturette avec laquelle ils jouent, c'est une copie d'un engin militaire. Quoi, ils ont bricolé. Extraordinaire le visage de ce môme qui rigole avec des lunettes noires. Il a trouvé des lunettes noires.
Chaque nettoyage, c'est un grand pillage. Chaque nettoyage, c'est un vaste pillage.
Силу своей образованности я никогда не возьму в руки оружие.
Moi, je suis médecin et avec la formation que j'ai, je prendrai jamais une arme dans la main.
Но есть много других ребят, которые
вот так. Il y a beaucoup de gens qui le font pour se venger.
Pouh, ça c'est impressionnant quand même, dans cet hôpital complètement loque, tout est défoncé, sale, les plastiques aux fenêtres, les couloirs sont dans l'obscurité, les fils pendent de partout, ça pue dans les escaliers, ça pue vraiment, ça pue le pu, ça pue la merde, tout. Il y a quand même des médecins qui sont... là, et qui ont fait cette opération que j'ai sous les yeux, c'est un garçon qui a perdu les deux jambes. Enfin, qui les a pas tout à fait perdu, ses jambes ont explosé sur une mine, et les médecins ont essayé de sauver ce qu'ils pouvaient sauver. Mais il a besoin d'une greffe osseuse et ça a l'air très compromis. Qu'est-ce qui manque à ce garçon? Le courant vient de tomber, et il y a une panne de courant.
Ему сейчас, в данное время, необходимо подождать, пока рана очистится.
Il faut attendre que la peau soit nettoyée.
И заживет.
Et qu'elle cicatrise.
А потом пересадка кости. Пересадка кости в клинике где-нибудь.
Il faut faire dans une clinique une greffe osseuse.
Здесь не получится.
Ici, ça marchera pas.
Vous avez beaucoup d'accidents comme ça sur des mines?
Много.
Beaucoup.
Почти все.
Presque tous ceux qui sont là sont des traumatismes de saut sur des mines.
Qu'est-ce qui vous manque le plus ici?
Знаете, что это трудно вам ответить. Нас все не хватает.
C'est difficile de vous répondre. Tout nous manque.
У нас нет оборудования, нет инструментов, нет оборудования. Мы все приспосабливаемся.
On n'a pas les instruments, on s'adapte, on essaye de trouver des choses, ça и
так. После первой войны больница была брошена, все разграбили.
L'hôpital était complètement à l'abandon, tout avait été pillé.
Dites-moi, sans indiscrétion, si c'est pas indiscret, vous êtes payé comment actuellement? Médecin, infirmier, infirmière, personnel de l'hôpital?
Никто не платит.
Personne ne paye.
Нам уже 8 месяцев не платили, сейчас только дали 2 месяца.
Et là, on vient juste de recevoir 2 mois.
Мы так просто существуем.
On existe, on survit.
Я врач, для меня унизительно.
Кого-то
там на пачку сигарет, на чего-то просить.
C'est très humiliant d'aller demander à quelqu'un de quoi m'acheter un paquet de cigarettes.
Quand vous êtes payé, c'est combien par mois?
Мало.
C'est peu.
Мало.
C'est peu.
Я говорю, сейчас мы о неоплатах ставим вопрос. Нам надо выжить в этой ситуации.
La question, c'est pas une question de salaire, c'est une question de survie dans une situation comme ça.
Он тоже чечен, я чечен.
Oui, il est чечен, moi je suis чечен, il faut qu'on s'entraide.
Нам надо выжить.
Il faut survivre, c'est une question de survie.
Потому что народ истощался.
Parce que le peuple est épuisé.
У народа нет ничего. Сейчас бедные
le
все.
N'a plus rien. Tout жить monde не est pauvre. На что,
понимаете?
On и притом, vivre.
И притом
plus,
вот это блокпосты,
очень
много людей ранены дома лежат, не могут
y a
проехать.
Beaucoup de gens, à cause du poste de contrôle, il y a beaucoup de blessés qui sont chez eux, qui peuvent pas venir à l'hôpital à cause du poste de contrôle.
Ah, pour entrer. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas venir.
Да, они могут.
Боятся.
Потому что попадешь там, они начинают, где что, пока одном посту, втором, пять, шесть постов пройдешь,
parce que s'ils doivent passer 5 ou 6 postes de contrôle, ils y perdent la journée.
Y compris des jours comme aujourd'hui où toute la ville est fermée et bouclée. Et là, on est passé au poste de contrôle pour entrer dans l'hôpital. C'est effectivement, c'est des visites très, très poussées. On fait gaffe, évidemment, à ce que les véhicules ne transportent pas des combattants qui viendraient se faire soigner. C'est ça la mesure prise par les Russes.
C'est aussi un moyen pour les Russes, l'armée russe, à chaque poste de contrôle, d'organiser un racket. On comprend assez rapidement, c'est évident, que il n'y a aucun combat. On l'a dit et redit, et tout le monde le sait parfaitement. Mais la chasse aux combattants, aux boïviki, aux résistants, comme vous voulez, n'est pas la première préoccupation non plus des militaires qui sont là. Le problème, leur but numéro un, c'est le racket. Quand on sait l'état de décomposition totale de cette armée russe et de ce pays en général, le chaos russe, on comprend, on trouve pas anormal. Quand on connaît le pays de l'intérieur et cette armée aussi, il faut rappeler quand même que uniquement en termes de bizutage, des bizutages dans l'armée russe font 2000 morts chaque année, 2000 morts uniquement lors des bizutages, c'est-à-dire la barbarie totale qui règne dans cette ex-glorieuse armée rouge. Et aujourd'hui, pour tous, pour chacun, la question, c'est gratter un peu d'argent pour les bidasses de base, ou bien pour la hiérarchie militaire, s'en mettre plein les poches, un point, c'est tout.
C'est une vision assez terrible, ces deux jambes avec ces structures métalliques autour, des fils, des vis, et toute une structure. Et puis ce jeune homme qui a quoi, une vingtaine d'années. Comment tu t'appelles?
Aslan.
Aslan. Aslan, tu as quel âge, Aslan?
20
ans.
20 ans. Quand est-ce que tu as été 20 ans?
Novembre.
En novembre.
Au mois de novembre. Et quand est-ce que tu as été blessé?
Le 6 novembre.
Pour tes 20 ans.
20 ans.
Mon anniversaire, c'était le 20.
Comment ça s'est produit? Tu peux nous raconter comment ça s'est passé?
Je me souviens pas, on roulait et ça a explosé. J'étais derrière, c'était mon ami qui était devant.
En moto?
Oui. Mon ami est mort. Et moi, voilà, vous voyez, donc il a eu un traumatisme crânien, c'est pour ça qu'il se souvient pas.
Ah, il a un problème du trou de mémoire. Il a un trou de mémoire. Alors c'est sur cette partie-là qu'il n'y a pas d'os du tout, c'est-à-dire sur la jambe elle-même, là il n'y a pas d'os. Ça tient uniquement par le métal qui est à l'extérieur.
Il y a 12 cm ici, il n'y a pas d'os.
Il y a 12 cm sur lesquels ça manque. Ça tient grâce à l'appareil. C'est l'appareil qui tient. Il y a un autre malade.
On va aller voir. Bon, on te souhaite du courage.
Qui a aussi sauté sur une mine. Oui. Qui a la jambe arrachée.
On te souhaite du courage. Tu l'as dit en tchétchène?
Da.
Je voudrais citer le nom d'une femme qui s'appelle Petimat. Et Petimat, c'est une infirmière que j'ai rencontrée dans le couloir de cet hôpital. Elle était assise derrière une grande table. Et très lentement, avec des morceaux de drap, elle enlevait les fils, un fil sur deux, de façon à faire des compresses, qui sont utilisées ensuite par les médecins. Je veux absolument garder cette image, cette femme qui, jour et nuit, sous une ampoule électrique, enlève des fils, comme ça, pour fabriquer des compresses. On continue la visite de cet hôpital.
Здесь есть одна семья,
Сын и мать.
Il y a une famille ici, la mère et le fils.
Мать русская.
La mère est russe.
Отец был чеченцем.
Le père était tchétchène, le père de cet enfant.
И этот мальчик очень серьезно болен.
Et ce garçon est très malade.
И целый год, он почти год провел здесь, в этой больнице.
Et il a passé toute l'année dans cet hôpital. Ils peuvent vivre nulle part ailleurs.
Да,
там... Ils étaient de Grozny, il y a eu des bombardements.
Там уже жить негде.
Ils ont nulle part où vivre là-bas.
И вот сотрудники сами их здесь кормят.
Et le personnel de l'hôpital nourrit
дают
ces personnes, leur donne de l'argent.
И они здесь живут.
Ils vivent ici.
Вы les avez оформили санитаркой сюда на работу.
Adopté.
Et ils ont fait des papiers comme quoi la mère travaillait comme aide-soignante.
Ну, зарплаты нет.
Il y a pas de salaire.
Он почти слепой.
Il est quasiment aveugle.
Он очень плохо видит.
Il voit très très mal.
И еще с ногой что у него?
Он ранение был тогда, осколочное ранение с дефектом мягких тканей, там кость была.
Il a une blessure à la jambe, une blessure par éclat de mine, et il a des, c'est une blessure très compliquée.
Кожу пересадку ему делали этому мальчику.
Et on lui a fait une greffe de peau, une greffe dermique.
Fiston, ouf! C'est difficile à voir comme spectacle, c'est une jambe complètement creusée comme ça. Il manque une partie de la chair de la jambe de ce garçon. Bonjour!
Alexei.
Alexei.
Il s'appelle Alexei, c'est un passeport, mais on l'appelle Ali.
Alibaba et 40 voleurs.
Alibaba et les 40 voleurs.
Ah, tu t'appelles Alexei et Ali aussi.
Ali et Alexei.
Ali Alexei, alors t'es quoi? T'es tchétchène ou tu es russe?
Métis.
Je suis métis.
T'es métis.
Moi, russe, t'es tchétchène.
Ma mère est russe, mon père tchétchène.
Et tu es pour qui alors?
Sam за себя, за кого я?
Pour moi-même, pour qui d'autre?
Pour toi. Et pourquoi tu es ici à l'hôpital? Qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe là? C'est terrible.
J'ai une
blessure par éclat.
Осколочное ранение, вот, лежу уже год и два месяца.
Ça fait un an et deux mois que je suis là.
Жить не на что. Дом разбили.
Дом разбили.
Vous venez du Grozny?
В Грозном жили.
On vivait à Grozny.
Около двора дрова рубил.
J'étais près de la cour, je coupais du bois. Et il y a eu des tirs, un tir d'obus d'un tank.
Ну и подстрелили, потом меня привезли в старые Атаги в больницу.
Я иди тир, и après on m'a emmené à l'hôpital d'Atagi, après à Chiriyurt.
Потом сюда попал.
И après je suis arrivé ici.
Да, 99 года, 4 ноября.
Le 4 novembre 99. Je me souviens pas quel jour c'était.
Ну вообще эта сторона как контуженная вообще.
J'ai eu des contusions.
С глазом плохо.
Et je vois mal.
Mais c'est à cause de cet éclat que tu as des problèmes aux yeux?
Oui,
c'est lié.
Quand on est métisse comme toi, est-ce que c'est difficile de vivre parmi les Tchétchènes?
Ça бывает, ну, мир не без добрых людей.
Добрый. Non, les civils ils sont gentils. Les gens s'aident.
Жить не на чего. Вообще, тут больничную кашу дают, и её ем.
On n'a rien pour vivre. On mange que de la cacha de l'hôpital. On a envie d'autre chose quand même.
Rejetés par les Russes, rejetés par les Tchétchènes, les Métis sont évidemment très souvent les plus fragiles dans ce genre de situation. Voilà pourquoi dans cet hôpital à Goudermesh, le personnel de l'hôpital, vous avez vu dans quelles conditions ils survivent eux-mêmes, ont adopté ce garçon, Ali Alexei, et sa mère. Il faut rappeler que la colonisation de la Tchétchénie et du Caucase en général s'est faite au prix de déplacements de populations russes, ukrainiennes, au titre du peuplement. Ça peut être comparé à nos pieds noirs, mais c'est quand même assez différent. Et dans la première guerre, enfin la récente guerre, celle de 94-96, les Tchétchènes avaient fui massivement Grozny lors de l'entrée des Russes, enfin à l'exception bien sûr des combattants. Et c'est les Russes qui étaient restés dans la ville et qui ont été massivement tués au cours de cette première guerre. C'est donc des Russes qui ont tué des Russes. Et ça continue moins dans cette seconde guerre, mais ou moins, j'en sais rien après tout, parce qu'on ignore encore quel est le bilan actuel. On avance le chiffre de 45 000 tués en 15 mois de guerre et 18 000 disparus, mais ces chiffres sont évidemment prêts à discussion. Mais il faut comprendre ce que c'est qu'un enfant comme celui-là, comme Alexei Ali, qui est métis.
Нет, меня все говорят, что я русский, похож на русского.
Tout le monde me dit que je suis russe, je ressemble à un russe.
Mais tu fais le ramadan en ce moment?
Соблюдал раньше.
Je le faisais avant.
Mm. Я люблю чеченцев, потому что у меня отец был чеченец.
J'aime les Tchétchènes, mon père était Tchétchène.
Ouais. Tu es un peu musulman, un peu orthodoxe?
Нет, чисто мусульман.
Non, purement musulman.
Tu es purement musulman?
Je считаю себя так.
Je me considère comme tel.
Mais quand tu vois ces Russes, cette armée russe, tous ces jeunes Russes qui sont là, qu'est-ce que tu penses?
Не знаю, когда нога поправится, придется строить дом. Что еще делать?
Больше je sais pas. Ничего. Quand ma jambe ira mieux, je reconstruirai ma maison.
Больше жить негде вообще.
J'ai nulle part où vivre ailleurs.
Mm-hmm.
Дом весь дотла сгорел.
La maison a brûlé complètement.
Et ton père, il est où?
Отец 6 лет назад умер.
Il est mort il y a 6 ans.
Утонул.
Il s'est noyé dans l'eau.
Donc tu restes avec ta mère et ton frère?
On ne
sait pas où il est, mon frère.
Il a quel âge?
20.
Il a 20 ans.
После того, как уехал, он один раз приезжал в Черри-Юрт, и после того уже больше его не видели.
Après m'avoir emmené à Черри-Юрт, il est venu une fois me voir, après il a disparu.
Я сам даже не знаю, куда он мог деться.
Je ne sais pas où il a pu passer.
Уже год, как его не видел никто.
Ça fait un an que personne ne l'a plus vu.
Tu penses qu'il est peut-être allé combattre?
Наверное, он пошел на войну или убили где-то.
Sûrement, soit il est parti à la guerre, soit il a été tué.
À quoi tu passes tes journées?
Вставать чуть-чуть, могу ходить.
А так, je peux me lever un petit peu, faire quelques pas.
А так, лежу больше в палате.
Et sinon, la plupart du temps, je suis allongée dans la chambre de l'hôpital.
Как можно стоять, уснуть, все.
Quand je peux, j'essaie de dormir.
Мать сейчас пошла, добивается что-то. Она плачет, бедная, что мне кушать нечего.
Ma mère est partie, là, chercher à manger, demander à quelqu'un de l'aider. On n'a rien à manger.
C'est son lit, là? Elle dort ici?
Oui, la couette. Oui, la couette.
Ah, ça, celui-là, son lit. Mmh. Et ça, c'est le mien.
Comment ça va évoluer, sa jambe, docteur?
Со временем эту рану можно закрыть.
Avec le temps, la blessure peut se refermer.
Пересадка. Mmh.
Avec la greffe.
Vous allez faire une greffe?
Сейчас пока нет.
Pas pour l'instant.
Потому что немножко ему надо отдохнуть.
Il faut d'abord qu'il se repose.
Он уже год в больнице.
Ça fait un an qu'il est à l'hôpital. C'est épuisant, il n'a pas de force.
Mm-hmm. C'est vous, le personnel, qui prenait la maman et le garçon en charge?
Non, мы не можем сейчас их выгнать, потому что некуда выгнать.
On ne peut pas les chasser. On ne peut pas les chasser, on est des êtres humains quand même. Ils ont nulle part où aller. Tant qu'elle ne peut pas recevoir une pension, tous les jours, elle va à l'administration. Tous les jours.
Ali, bon courage. Courage.
Спасибо,
Баркала.
Спасибо, Баркала. Спасибо, Ива. Merci.
Баркасиба.
Баркасиба.
Merci à tous, merci à Aude Merlin. Je signale un livre à paraître le 13 mars 2003 auquel participe justement notre Aude Merlin qui s'appelle Tchétchénie, 10 clés pour comprendre aux éditions de la Découverte par le comité Tchétchénie Technique. Aujourd'hui, Philippe Duclos et Romain Lukiens et Eric Audra. Assistante Joël Levert, le répondeur. Ah, justement, le répondeur. Il nous reste un peu de temps, quelques minutes. On n'a pas passé de message, vous avez remarqué, hein. Eh oui, au début de l'émission. Alors, on va écouter quelques-uns des messages que vous avez laissés sur le répondeur au 01 56 40 37 37.
Спасибо, товарищ Мерме. Merci, monsieur Mermet, pour cette splendide émission sur la Tchétchénie qui est en train de se dérouler. C'est malheureusement un sujet qui intéresse tous les journalistes et on oublie des populations qui crèvent et qui souffrent autant que les populations palestiniennes, que les populations irakiennes, parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains ils sont déjà en Irak et que la guerre y est déjà là-bas. Et donc voilà, c'était pour vous remercier d'une émission sur ce sujet.
Je vous téléphone suite à votre émission d'aujourd'hui à propos de Grozny. Je voudrais vous lire quelque chose, il n'y aurait que les noms à changer, les lieux éventuellement. L'horreur de l'expérience Hitler n'est pas qu'il ait perpétré sur la race humaine, mais que la race humaine lui ait permis de le faire. Ce qui est étonnant, ce n'est pas seulement qu'un Hitler se soit manifesté, mais aussi que tant d'autres lui aient donné leur appui. La honte, ce n'est pas seulement qu'Hitler ait tué des millions de Juifs, mais aussi que des millions de Juifs aient dû mourir avant qu'on arrête Hitler. Le but de l'expérience Hitler était de montrer l'humanité à elle-même. C'est quelque chose que j'ai vu dans Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh.
Ouais, juste un truc, Bernard Loiseau s'est suicidé, super, formidable, on va faire des doubles pages sur lui, mais on pense pas trop aux pauvres ouvriers qui se sont aussi suicidés suite à de drôles de pression, celle-ci venue de leur patron il y a quelque temps de ça, voire même en ce moment, et voilà, ça me dégoûte un peu d'entendre ça sur le journal de France Inter notamment, là en ce moment à 13h, où on est en train de faire tout un cérémonie, un hommage à Loiseau, et voilà, quoi. Ça me dégoûte un peu. Voilà, allez, c'était Patrick à Marseille, bye.
Salut à tous, Stéphane, j'appelle le Montrouge, je suis intermittent, et j'ai découvert avec stupeur tout à l'heure que dans des émissions quotidiennes de France Inter, il y avait des intermittents, puisque certaines émissions ne sont pas diffusées, because des intermittents sont en grève, et je m'étonne un petit peu que dans l'audiovisuel public pour des émissions quotidiennes, il y a des intermittents, je trouve ça un peu étonnant, quoi. Voilà, ça me troue un peu.
Oh, ouais, les techniciens! Oh, ouais, les artistes! 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 Oh, ouais, le Bataclan! Oh, ouais, le Bataclan! Oh, ouais, le Bataclan! Oh, ouais!
Oh, voilà, ça s'appelle un reportable, ça, hein. Dans une manif, vous prenez votre portable et ça donne ça. Et c'était hier à la manif. 30 000 intermittents du spectacle, intermittents de la société de spectacle qui étaient dans les rues. Et là, c'était devant le Bataclan, où ces énergumènes de manifestants et de grévistes ont empêché le spectacle de Michel Jonas. Voilà, ce soir-là, ce sera pour un autre soir, donc voilà quelques échos. Est-ce que je vous ai bien dit le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37, et que c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale, assisté de Koy Nguyen. Demain, on reçoit, qui donc, on reçoit Pierre Péan et Philippe Cohen. Vous êtes tous au courant de ce livre qui vient de sortir, cette bombe. C'est très lourd, hein, le bouquin. Je peux vous dire qu'il est lourd et qu'il est long et que voilà, je suis dedans et dedans. Et demain, on recevra donc les deux auteurs de ce livre qui va faire grand bruit. Et puis ensuite, on part pour Stalingrad, on part pour la Russie vendredi donc. Il est 18h sur France Inter. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous laisse pour le journal avec Odile Martin. Salut !